L'invité de Radio Pont.
Eh bien bonjour à tous, chers auditeurs de Radio Pont. Vous faites bien de nous écouter sur le 97 FM, parce qu'aujourd'hui, on a la joie et le plaisir d'accueillir une nouvelle invitée dans notre studio. Il s'agit d'une réalisatrice de documentaires et de films qui vient présenter aujourd'hui même sa dernière production au cinéma Le Vauban en avant-première. On a le plaisir d'accueillir Madame Delphine Détry. Bonjour Delphine.
Bonjour.
Avec nous dans le studio, Frédéric est là.
Bonjour,
avec nous.
Bonjour Delphine.
Bonjour Frédéric.
Je vais vous laisser discuter. On a un petit peu de temps pour justement parler de ce film, Jeune Bergère, dont la sortie officielle, je le rappelle, est le 27 février. Donc bienvenue, merci de nous accorder du temps, Delphine.
Bah, avec plaisir.
C'est très gentil.
Merci de me recevoir.
Ma première question qui me vient à l'esprit comme ça, c'est la rencontre avec l'héroïne de ce film documentaire. Comment ça s'est fait? Est-ce que c'est elle qui est venue vers toi? Est-ce que c'est toi qui es allé vers elle? Comment ça s'est passé?
Alors, on est venus l'une vers l'autre parce que, en fait, on m'a commandé un reportage, donc en 2015, un reportage pour une grande chaîne de télévision. Mm-hmm. Et donc, cette commande, c'était un sujet de 30 minutes avec des portraits croisés de trois femmes qui avaient eu un premier métier dans un domaine complètement différent de l'agriculture.
D'accord.
Et qui étaient ensuite devenues agricultrices, voilà, par passion. Stéphanie était une de ces trois femmes, mmh, et on a eu un contact privilégié. Et quand j'ai pris de ses nouvelles, alors d'une part, elle sortait d'une réunion à la sous-préfecture qui s'était très mal passée, où on lui a dit « si vos brebis continuent à se balader sur les routes, on va vous fermer votre exploitation ». Donc elle était effondrée.
Ouais.
Et moi, j'ai trouvé ça très injuste, mmh, parce que fermer l'exploitation de quelqu'un, c'est anéantir le travail de plusieurs années.
Oui.
Donc ça, c'est une première chose où j'ai eu un sentiment d'injustice. Donc c'est peut-être la première étincelle, ce qui a fait que l'idée du film est venue juste après. La deuxième chose, c'est que bien sûr, quand on se lance dans un film documentaire, il faut qu'il y ait une histoire à raconter.
Oui.
On n'y va pas n'importe quand. Et donc Stéphanie, elle est passée le cap des 5 ans de son installation en tant que jeune agricultrice. Et comme elle a reçu pour s'installer une aide de l'État, qui est la dotation jeune agriculteur, et bien au bout de 5 ans, il faut qu'elle prouve qu'elle est rentable,
qu'elle est viable,
voilà, ouais, et qu'elle puisse se verser un SMIC. Et donc, voilà, je l'ai accompagnée, j'ai fait ce film au moment où elle passait ce cap, entre l'année 2016 et l'année 2017.
Ce film était présenté en version française. Donc, est-ce que c'est un film qui va être produit dans d'autres pays européens ou autres, en version autre que française?
Alors, en fait, on a la chance d'avoir un vendeur international pour le,
ouais,
film. Donc,
d'accord,
le film a été sous-titré en anglais. Et je vais voyager avec ce film à l'étranger, mais je ne peux pas dire où et quand, car
d'accord,
c'est encore... Mais effectivement, alors je ne sais pas s'il aura une grande carrière à l'international, mais en tout cas, il y a au moins un pays où il va être vu. J'espère d'autres. Donc oui, il y a une version sous-titrée anglais de Jeune Bergère. Et en anglais, le film s'appelle A Modern Shepherdess, c'est-à-dire Une Bergère Moderne.
Comment ça s'est passé en fait? Est-ce qu'elle s'est livrée totalement, je pense?
Je pense qu'elle s'est livrée. Alors totalement, probablement pas. Mais en même temps, ça ne me gêne pas que les gens gardent une petite réserve. Enfin, que les gens, en tout cas, aient la sensation d'être filmés et ne livrent pas tout. Parce,
d'accord,
que je trouve ça presque dangereux. Voilà, sur de précédents tournages de films documentaires, des fois, je me suis retrouvée un tout petit peu censurer les gens au montage parce que je pense qu'ils disaient des choses trop intimes sans se rendre compte.
Oui.
Qu'après, il y a une diffusion et des gens qui vont voir ça, etc. Mais en tout cas, on a fait tout un travail, j'ai fait tout un travail et puis elle a accepté d'être dans ce dialogue pour faire en sorte qu'elle nous livre quelque chose de ses états d'âme, bien sûr,
mmh, oui,
parce que sinon ça n'avait pas de sens de faire le film. Quand j'ai filmé Stéphanie pour le reportage, c'était ce qu'on appelle une bonne cliente, entre guillemets, en reportage, c'est-à-dire quelqu'un qui s'exprime très bien,
oui,
qui a un discours très construit. Stéphanie, dans son ancienne vie, elle travaillait comme assistante de réalisation et de production au cinéma.
Oui.
Donc, elle connaît bien la mécanique d'un tournage.
D'accord.
Mais c'était presque un peu dangereux, parce que quelqu'un qui connaît trop bien un tournage peut dire « Alors, là, j'ai bafouillé, est-ce que tu veux que je te refasse ma phrase ?» ou « Est-ce que tu veux que je te fasse une entrée de chant ?» etc. Or, il était capital, là, pour le documentaire, qu'elle accepte de lâcher quelque chose, qu'elle ne soit pas dans le contrôle,
voilà,
et
ouais,
qu'elle ne se dise pas sans arrêt « Alors là, je suis en train d'être filmée, la caméra est à tel endroit, etc. etc. » Donc, je lui expliquais que c'était une démarche différente du reportage, qu'en plus, j'avais le temps, et que ce que je voulais faire, c'était du cinéma, donc une approche différente. Et dans le dialogue, en lui expliquant ce que je voulais filmer et pourquoi je voulais filmer, elle m'a donné sa confiance, d'accord, qui est un cadeau énorme que nous font les gens qu'on filme, mais sans quoi il n'y a pas de film.
Et pour ce film, donc, du départ du projet à l'aboutissement, je pense que c'est 2 ans de travail.
C'est 2 ans et demi de travail.
Donc il faut être présent quand même souvent.
Il faut être présent régulièrement. Alors un film documentaire, c'est vrai que c'est entre 2 et 5 ans de travail, hein, souvent. Mmh. Parce qu'il y a les phases de repérage, d'écriture, puis il y a le tournage, puis tout ce qu'on appelle la post-production, le montage, la musique, etc. Pour ce tournage, il y a 35 jours de tournage répartis sur 1 an et demi. C'est pas tant de jours que ça, mais j'y allais à chaque fois pour des raisons précises. J'y allais pas au hasard. Je savais qu'il allait se passer telle ou telle chose qui nourrissait mon histoire. Et puis après, il y avait en plus des séquences imprévues, enfin du quotidien, et dans lesquelles pouvaient surgir aussi des choses intéressantes. C'est ça la magie du documentaire, d'ailleurs, c'est que on essaie d'anticiper le réel d'une certaine façon. On sait qu'il y a des choses récurrentes qui se passent, la naissance des agneaux, la mise au pré, etc. Et puis il y a tout ce que le réel va nous offrir. Et là, il faut être bien connecté à l'instant et qu'on peut capter et qui peut déborder tout ce qu'on aura imaginé. Donc oui, ça, c'est fait, génial. Et alors, donc, le rythme du tournage, les 4 premiers mois, j'y suis allée 3 jours par mois. 3 jours, ça peut paraître court, mais quand on tourne seul et vraiment beaucoup de séquences pendant 3 jours, on a déjà une matière bien riche. Puis après, ça s'est espacé parce que finalement, à la fin du printemps et pendant l'été, il se passait pas vraiment des choses qui faisaient avancer l'histoire. Donc puis sur la fin du tournage, j'y suis allée à nouveau tous les mois parce que on se rapprochait de l'enjeu du passage de 2016 à 2017, etc.
J'ai une petite question complémentaire. Je me dis, c'est justement cette frontière entre le réel, entre la vie réelle filmée un peu dans l'instant et la fiction, c'est-à-dire la partie programmée, prévisible, prévue du film. Où se trouve cette frontière-là entre les deux? C'est au montage après que tout se décide, en fait, entre je garde plus de vraie vie et je rajoute plus pour mon histoire, ou est-ce que vraiment tout s'emboîte facilement?
Alors, il faut savoir que dans ce film, en tout cas, rien n'est mis en scène. Parce que dans le documentaire, après tout, un film est une construction. Et il y a des gens qui font jouer des scènes dans le documentaire. C'est quelque chose qui m'a surprise, moi, au début, mais effectivement, ça peut se faire. Et dans le cinéma documentaire, le réel et la fiction peuvent se rejoindre par moment. Par contre, effectivement, je pense que c'est au montage que, par moment, la construction du film se rapproche de la fiction. C'est-à-dire qu'on va, avec la monteuse, on a fait un travail où on a fait en sorte qu'il y ait une certaine tension dans le film. C'est-à-dire que la différence entre un reportage et du cinéma, c'est que dans le reportage, on va tout dire, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait de zone d'ombre. Il faut que le spectateur comprenne tout. Enfin, c'est le but. Là, au contraire, on donne des informations, mais on les donne de manière parcellaire. On les donne au compte-gouttes. Et ce qu'on espère, c'est que le spectateur se dit « Mais qui c'est cette fille ?» etc. On ne lui dit pas d'emblée d'où elle vient, qu'est-ce qu'elle a fait. Et au fur et à mesure il a des éléments de réponse. Et c'est là où on a essayé de construire le film comme une fiction, un peu comme une fiction au montage, parce que justement, on s'est dit, on ne dit pas tout.
Tout n'est pas livré tout de suite.
Tout n'est pas livré tout de suite. Et après, on a essayé aussi d'enlever, quand c'était possible, d'enlever de la parole pour qu'il n'y en ait pas trop. Parce que l'intérêt du cinéma, c'est de passer par la sensation, par l'émotion, et que le spectateur ressente les choses, parfois sans qu'on ait besoin de les lui dire. Donc tout film est effectivement une construction et aussi une représentation du réel à travers le regard du réalisateur. Et c'est là où c'est du réel, mais forcément passé par un filtre subjectif, d'une subjectivité qu'on assume d'ailleurs. Donc je ne sais pas si le spectateur qui voit les paysages dans Jeune Bergère, s'il va sur place, est-ce qu'il a l'impression de retrouver le film ou pas? Ça, j'en sais rien. Peut-être qu'ils sont un petit peu magnifiés, les paysages, mais ça, je l'assume, parce que le but, c'est quand même aussi de faire rêver le spectateur. Sinon, à quoi ça sert le cinéma, non?
Dans cette aventure, pour avoir travaillé avec des animaux, je sais qu'il y a des choses qu'on ne contrôle pas. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont plus touché que d'autres, où tu as été ému et peut-être tu t'es dit « Non, ça, c'est un peu fort ». Je ne vais pas le montrer. T'es-tu censuré ou pas?
Je ne me suis pas censuré parce qu'il n'y a pas eu de scène vraiment choquante.
Je pensais, par exemple, à la mort d'une des bêtes qui a dû toucher cette jeune fille.
Oui. Je veux pas trop en raconter du film, mais effectivement, le fait que les animaux meurent, c'est évoqué dans le film parce que je pense que ça fait partie intégrante du métier et que c'est quelque chose qui est, je pense, relativement occulté. Et c'est pas facile pour un éleveur de voir ses bêtes mourir. Et en l'occurrence, cette bergère, Stéphanie, comme elle élève ses brebis et ses agneaux dans les prés salés, il y a plus de danger qu'ailleurs. Oui. Les prés salés sont creusés par des petites rivières, donc les brebis peuvent s'envaser, se retrouver les quatre pattes en l'air et ne pas réussir à se relever. Il y a les renards, il y a les corbeaux. Donc il y a des dangers plus qu'ailleurs, ce qui veut dire qu'il y a plus de pertes aussi pour l'éleveur. C'est vraiment parce qu'elle aime ce mode d'élevage, où elle est dans un contact très fort avec la nature, qu'elle accepte de dealer avec une mortalité des animaux qui est plus importante que si on élève des agneaux dans le bocage. Quoi.
D'autant qu'elle vient d'un monde urbain, et passer comme ça au monde rural, c'est un choc quand même.
Ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle n'avait pas du tout fantasmé de s'installer à la campagne. Elle n'aimait pas la campagne.
D'accord.
Donc, pour l'anecdote qui est quand même rigolote, elle a gagné un week-end dans le Cotentin chez son esthéticienne. Elle dit à son compagnon de l'époque, on est en plein mois de février, on ne va pas y aller. Enfin, je veux dire, non, quoi. La campagne en plein mois de février, pas question. Et lui dit, si, on va y aller, parce que comme ça, on va rencontrer des petits producteurs, on va bien manger, etc. Et donc, ils vont là-bas et justement, ils croisent un berger qui rentrait son troupeau là dans les prés salés. Ouais. Et donc, il lui donne un coup de main. Et c'est là où Stéphanie a une sorte de révélation. Et moi, j'ai tendance à penser que c'est une révélation qui est passée par le corps, c'est-à-dire elle s'est sentie bien. Elle n'était pas du tout préparée à ça. D'accord. Et puis, elle a trouvé ça beau aussi. Elle est graphiste de formation, donc je pense que les éléments visuels sont très importants pour elle. Mmh. Donc elle a trouvé magnifique ces grandes étendues à perte de vue, avec la mer au bout, ces animaux qui sont en quasi-liberté. Même en tant qu'être humain, on a une forte sensation de liberté quand on se balade là-bas. Et du coup, elle est revenue. Enfin, elle ne s'est pas dit non plus du jour au lendemain, je vais devenir éleveuse. Mais elle est revenue plusieurs fois, en week-end, en vacances. Et puis à un moment donné, elle s'est dit, OK, c'est ça dont j'ai envie. Donc elle a fait un an de lycée agricole. Donc je pense qu'elle a eu le temps de s'habituer, de mesurer ce que ça impliquait. Ça ne l'a pas fait reculer.
Le rapport à la solitude, parce qu'on doit se sentir seul quand même. Dans des grands espaces comme ça, justement, enfin, dans des espaces où...
Le film montre vraiment la solitude de l'éleveuse, parce qu'elle n'est la compagne ou la femme d'un exploitant agricole. Elle est à la tête de son exploitation, qu'elle gère toute seule. Mmh. Et forcément, quand on gère un troupeau, et qu'on fait des tournées de surveillance, etc., on est, on passe beaucoup de temps seul. Ce qui fait d'ailleurs que sur la fin du tournage, elle me disait il faudrait que je puisse aller un petit peu vers du collectif d'une manière ou d'une autre, parce que ça finit par être pesant. Et c'est ce qu'elle a fait en fait. Depuis, là, elle a créé un collectif autour de la laine qui s'appelle Laine à l'Ouest, donc avec des couturières et d'autres éleveuses, pour relancer la filière laine. Et donc, ça, je trouve ça hyper intéressant aussi, parce que c'est des métiers qui disparaissent. Et il y a un petit frémissement comme ça. Il y a différentes régions de France où on relance la filière laine. Donc, effectivement, beaucoup de solitude. Alors, je pense qu'elle s'en accommode pour partie, mais forcément, il y a un besoin aussi de lien social.
Oui, de contact, de lien social. Ouais.
Après, c'est quelqu'un qui ouvre son exploitation aux autres. C'est quelqu'un qui est dans le partage, puisqu'elle a des visites, on le voit dans le film.
Dans la bande-annonce, il y a une classe, je crois, qui vient la voir partager des moments avec
Exactement, elle fait visiter les prés salés à deux classes de l'école primaire du village. Et puis, elle accueille aussi des gens d'un centre social, etc. Donc, elle est ouverte sur l'extérieur. Souvent, les films servent plus à poser des questions qu'à apporter des réponses. Et là, la question qui sous-tend le film, c'est quand même de dire, est-ce qu'on peut sortir d'une voie toute tracée ? Voilà. Est-ce qu'on peut sortir des cases et y arriver ? Quel est le prix de la liberté ? Et pour moi, c'est un personnage qui, justement, nous renvoie beaucoup la question de, est-ce que je suis libre ? Quel usage je fais de ma liberté ? Est-ce que je fais ce que j'aime ? Est-ce que je me bats pour faire ce que j'aime ? Voilà, c'est ça qui m'a donné envie de faire ce film aussi, vraiment. Parce que moi, j'étais à un moment où je voulais me battre pour faire mon métier comme j'en avais envie. Donc c'est pas un hasard si j'ai fait ce film sur elle à ce moment-là, en fait. Comme pas mal de réalisateurs, à un moment donné, j'ai commencé à souffrir du formatage et puis de la pression qu'on a pour être rentable. Mais ça, c'est quelque chose qui traverse toute la société. Mmh. Et donc, sincèrement, je me suis posé la question d'arrêter mon métier. Mais je me suis dit, ça serait un petit peu dommage de balancer 17 ans de compétences audiovisuelles à la poubelle pour repartir sur autre chose. Et je ne savais pas vraiment quoi. Donc, je me suis dit, j'essaye de faire... la chose que j'aime le plus dans mon métier, c'est-à-dire du documentaire de création, parce que je peux amener une subjectivité, etc. Et donc c'est vrai que moi, mon combat en faisant le film, c'était de dire, moi j'ai envie de travailler comme ça, j'ai envie d'avoir du temps, j'ai envie de proposer mon regard, et j'espère convaincre d'autres de s'embarquer dans ce film avec moi. Et donc j'ai eu la chance que ma productrice, Lucie Moreau, m'emboîte le pas, partage mon regard et... me laisse une grande liberté.
Je vous proposais une petite pause musicale.
Ben moi, j'aimerais beaucoup écouter le groupe Delgrès. C'est du blues créole, pour résumer. Mm-hmm. Et j'aimerais écouter le titre qui s'appelle « L'en met là ».
Eh bien, on écoute ça tout de suite sur Radio Pont. On se retrouve juste après.
Thank you.
On vient d'écouter sur Radio Pont le groupe Delgrès, Lamela. C'est un choix de notre invité. On est toujours avec Delphine Détry, la réalisatrice du film Jeune Bergère, qui passe au cinéma de Pont, actuellement au cinéma Le Vauban, et qui sort officiellement le 27 février dans toutes les bonnes salles de France.
Fabrice parlait de tes deux précédents films documentaires. On peut en parler un peu parce que je trouve que ce sont des sujets très forts, très engagés et très beaux. Le temps qui reste, c'est sur la période de fin de vie, l'accompagnement. Ensuite, tu as rebondi, c'est assez génial, sur les secrets de Polichinelle, qui là est un documentaire sur le temps de la grossesse, les questionnements que peut se poser cette maman à travers les autres qui ont déjà eu un enfant. Est-ce que tu peux nous parler plus
de ces deux films ?
De ces deux films.
Alors, Le Temps qui reste, donc c'est un film qui se passe dans un lieu qui s'appelle La Maison, qui est à Gardanne, qui est dans le sud de la France, pas loin d'Aix-en-Provence. Et c'est un lieu, c'est un centre de soins palliatifs. Donc, effectivement, on accueille des gens qui sont en fin de vie. Et moi, ce lieu m'a énormément touchée parce que j'y ai vu une forme d'utopie concrète. Parce que ce sont des soignants qui étaient très engagés auprès des malades du sida à une époque où ils mouraient comme des pestiférés et qui ont créé le lieu de soins dont ils rêvaient. Et donc, c'est un lieu où l'on meurt, mais c'est malgré tout un lieu de vie. Et c'est quand même un lieu où il y a une certaine forme de légèreté. C'est ce qu'en disent aussi les soignants. Pour moi, c'est très important parce que je crois que je n'aime pas tellement aborder les sujets de manière complètement frontale. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une forme de légèreté pour moi. Il faut même qu'il y ait une forme d'humour. Alors, on ne rit pas aux éclats en regardant Le Temps qui reste, bien entendu. Mais les soignants ont une forme d'humour. Donc, ça permet d'aborder cette question grave de la mort parce que ça nous renvoie à notre propre mort. Mais j'espère que c'est... Ouais. Pas un coup de poing dans la figure et que ça nous amène à nous questionner en douceur là-dessus.
Voilà, tout à fait.
Et ce film, j'ai mis 10 ans avant de le faire parce qu'il fallait une certaine maturité pour aborder... c'est une responsabilité quand on fait un film. Donc, aborder cette question de la mort, être auprès des malades, des soignants, etc. J'estimais qu'il fallait que je fasse un film qui soit beau, si possible. Et puis... c'était une forme de respect que de dire j'y arrive au moment où j'ai une expérience et où je me sens les épaules pour le tourner.
Quelques années après, tu as fait Les Secrets de Polichinelle. Donc pour toi, c'était un moyen de...
Après la mort, la vie.
Oui, enfin, après la mort, la vie.
Alors Les Secrets du Polichinelle, il n'était pas prémédité celui-là. En fait, il faut savoir que quand on fait un film, des fois, entre-temps, on a écrit un projet qui ne s'est pas fait. Enfin voilà, c'est ce qui s'est passé. J'avais écrit un projet qui ne s'est pas fait, j'étais très déçue. Et puis je me suis rendu compte que j'étais enceinte. Alors je me suis dit, j'ai pas envie que la réalisatrice s'efface complètement derrière cette future maman. J'ai envie de garder un lien avec mon métier. Et surtout, je me suis rendu compte que je savais vraiment pas grand-chose sur la grossesse. Et je me suis dit au départ, je vais faire un film pour m'amuser, une espèce de journal de bord, et puis... Ça sera un petit film pour moi, un peu expérimental. Et en fait, je me suis prise au jeu et je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses à dire parce qu'il y a un tas de choses dont on ne parle jamais et qui sont assez tabous autour de ce sujet. Et voilà. Et donc, du journal de bord où j'aurais filmé, je sais pas, mon ventre, mes pieds, mes mains, je suis allée rencontrer mes amis pour qui partagent leur expérience avec moi. Alors, il y avait des expériences très diverses. Un couple de femmes qui a une petite fille... un couple d'amis qui a eu un enfant très prématuré. Bon, voilà, des choses très diverses. Et puis au départ, je voulais un petit peu me planquer. Et puis je me suis dit, bon, tu demandes à tes amis de raconter des choses qui sont quand même, qui leur appartiennent. Donc à un moment donné, faudrait peut-être que tu te mouilles un peu. Parce que je détestais l'idée d'être vraiment devant la caméra. Et puis en fait, je me suis un peu filmée avec une certaine autodérision pour être moi-même un personnage du film et raconter aussi la grossesse pendant que je la vivais. Bon, c'est une chose qui se fait assez souvent en documentaire aussi, de parler de soi, mais c'est pas juste pour se regarder le nombril, c'est pour partager quelque chose d'authentique avec les autres. Finalement, c'est une forme aussi d'engagement que de se montrer dans le film au moment où on traverse les choses et on a des questionnements. que des tas d'autres femmes ou des hommes qui vivent la grossesse de leur femme vont vivre. Et puis j'ai voulu donner beaucoup la parole au papa aussi dans ce film. Parce que la grossesse, ça se passe dans le corps de la femme, mais ça se passe dans la tête de l'homme aussi. Je trouvais ça très important que les hommes s'expriment.
Hein. J'ai trouvé sympa qu'on en parle justement dans un documentaire des papas qui sont souvent relégués à pousser la poussette.
c'est intéressant de connaître leur point de vue. En plus, c'était des amis proches. Mais il n'y a rien de tel que le prétexte du film pour aborder ces questions en profondeur. Oui. C'est des choses qu'on ne se serait pas racontées sinon, en fait.
Bien sûr, ton actualité, c'est La Jeune Bergère. Mais est-ce que tu as déjà d'autres projets en cours ?
Oui, je suis en train de tourner un autre film, un autre long-métrage, documentaire, dans un foyer de jeunes travailleurs, en Seine-Saint-Denis. Je vis en Seine-Saint-Denis, c'est comme ça qu'est venue aussi l'idée du film. Le film s'appelle « Dans leurs rêves », enfin, c'est un titre provisoire ou définitif à ce stade, je ne sais pas encore. Et la question que pose le film, c'est quand on a 20 ans et qu'on est confronté à la précarité, quelle place on laisse à ses rêves et à ses désirs face aux contraintes qui sont de bosser, de se loger, etc. Voilà la question du film. Et donc je filme 4 jeunes qui sont des combattants. Le film pourrait s'appeler Les Combattants aussi, je trouve. C'est un film qui va être terminé à la fin de cette année.
Donc Jeune Bergère sort le 27 février en salle.
Ouais.
On lui souhaite une... Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à ce documentaire-là ? Qu'est-ce qu'on peut souhaiter déjà à l'héroïne, au personnage principal ?
L'héroïne, on peut lui souhaiter... Alors, il faut avoir vu le film, évidemment, pour comprendre, mais on peut lui souhaiter, à un moment donné, de réussir à agrandir son troupeau pour pouvoir en vivre, parce que c'est une rude bataille. Mmh. Et puis, le film, on peut lui souhaiter d'être vu, hein, parce qu'on fait, on fait des films pour qu'il soit vu. Bien entendu, c'est difficile, quand on est un petit film indépendant, un documentaire, de se faire une place quand il y a 15 films qui sortent chaque semaine. Donc n'hésitez pas à aller au cinéma.
Comment on peut, nos auditeurs là, avec qui on a partagé un long moment, comment ils peuvent suivre ton actualité, suivre peut-être la page Facebook du film dont on a parlé tout à l'heure ?
Voilà, ils peuvent suivre la page Jeune Bergère-le film sur Facebook, parce que ça nous permet de créer une communauté autour du film, et c'est important. Et puis moi j'ai un site internet, delphinedetry.com, que j'essaierai de mettre un peu à jour, mais ça permet de connaître mon parcours qu'on a, cela dit, bien détaillé avec Frédéric. Donc merci beaucoup pour votre invitation, en tout cas.
À très vite, les auditeurs.
À très vite.
Vous retrouverez donc le film Jeune Bergère au cinéma Le Vauban et probablement aussi au cinéma de Saint-Cyr sur Gironde. On va faire un petit clin d'œil à Philippe aussi qui a permis cette rencontre, cette discussion. Merci beaucoup à tous.
Merci.
Merci.
Bonne fin d'après.